Radio Okapi.
Nous serons en Nord-Kivu avec cette tension aujourd'hui à Lukweti dans Masisi. FCM23 et Wazalendo s'y battent à nouveau depuis deux jours. Hier, des centaines de maisons ont été incendiées, ce qui entraîne de nouveaux sans-abri et donc de nouveaux déplacés. Et cela vient aggraver la crise humanitaire sur place. Nous sommes le 12 avril, journée internationale des enfants de la rue. Les phénomènes étant en nette progression dans la région de Beni-Butembo, Nord-Kivu. Une situation que les acteurs du domaine lient en grande partie au combat qui touche les deux Kivu depuis des décennies et qui continue à jeter sur les routes de nombreux enfants. Comme invité aujourd'hui, Dr Vincent Melangana, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Makiso à Kisangani. Il nous parle de la réhabilitation de la morgue de cet établissement médical deux ans après sa fermeture. Madame, Monsieur, bonjour. Au Nord Kivu, la tension est très vive. Ce dimanche, dans l'agglomération de Lukweti, au nord-est du territoire de Masisi, depuis deux jours, des combats ont repris entre les rebelles de l'FC-123 et le groupe armé Wazalendo. Selon plusieurs sources locales, des centaines d'habitations appartenant aux civils y ont été incendiées dans la journée hier samedi. Et la Chimbalo nous dit ce qu'il en est.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont encore résonné tous ces dimanches dans plusieurs villages de la localité de Lukweti. Elles font suite aux violents combats qui ont opposé durant toute la journée de samedi les combattants de l'FCM23 à une coalition des groupes armés Wazalendo. Tout est parti du mont Shingisha, avant que les affrontements ne s'étendent à d'autres villages voisins, plongeant la population dans la peur, indiquent les sources civiles et coutumières locales. D'après ces sources, de nombreuses maisons de civils ont été incendiées samedi après-midi. Certains attribuent ces incendies aux combattants de l'FC-23, qui aurait ciblé des habitations suspectées d'abriter des éléments Wazalendo. Ces nouveaux affrontements surviennent seulement une semaine après d'autres violents combats qui ont eu lieu le dimanche 5 avril dernier dans la même agglomération de Lukweti. Une série d'épisodes qui aggravent la crise humanitaire dans cette région où s'entassent déjà des milliers de déplacés. Les activités socio-économiques et même scolaires sont particulièrement perturbées, laissant les habitants dans une situation de plus en plus précaire.
La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres, CNCALPC, alerte la population de Walikale sur la présence d'engins explosifs dans plusieurs localités de ce territoire du Nord Kivu. Il s'agit principalement des localités récemment abandonnées par les troupes de l'FCM23. Le chef de poste de cette commission à Walikale invite la population à la vigilance. Dédité avec Jean Gandou.
Alors que de nombreux habitants commencent à regagner progressivement leurs villages abandonnés depuis plusieurs mois à la suite des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, CNCALPC Walikale, appelle les retournés à la prudence, car d'après cette structure, de nombreuses localités avaient été minées par les rebelles pendant leur occupation. C'est le cas de Kibati, Kachebere, Mpeti, Minjenje ou encore Bukumbiroa. Le chef de poste de la CNCALPC Walikale appelle la population à la prudence. Elle invite à ne pas se rendre pour le moment dans les positions autrefois occupées par le M23. Clément Kabuyandole.
Qu'il plaise aux habitants de Walikale, tant qu'ils n'auront pas vu une délégation des équipes sur le terrain de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres venir visiter pour une supervision et un contrôle systématique de ces engins, que personne ne s'y rende parce que nous craignons des pertes de vies humaines dans ces entités.
Clément Kabuyandole demande également à la population de signaler aux autorités compétentes tout objet suspect. Aux enfants, il rappelle qu'il est interdit de toucher ou de manipuler des objets inconnus. Enfin, il invite les parents à sensibiliser leurs enfants aux risques liés aux engins explosifs.
En Ituri, deux morts, une dizaine de maisons incendiées. C'est le bilan d'une incursion d'hommes armés hier samedi au village de Belou, au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources coutumières locales, les assaillants venus en grand nombre ont tiré plusieurs coups de feu dans cette entité pour créer la psychose parmi les habitants, en majorité des agriculteurs. Martial Kisabiamungu nous en dit plus.
La situation reste préoccupante dans la bourgade de Belou ce dimanche matin, où une délégation mixte composée des membres de la communauté des Banyali Kabi et des services de sécurité locaux s'est rendue sur place. Selon les rapports de cette délégation, les assaillants munis de machettes et de fusils ont tiré plusieurs coups d'effet avant d'incendier une dizaine de maisons d'habitation. Toujours selon ces rapports, deux personnes ont été touchées par balles et ont succombé à leurs blessures. Les autorités coutumières lumière plaide pour un déploiement rapide des forces de sécurité dans cette région pour la sécurité des habitants qui vivent la peur au ventre. Elles insistent sur les renforcements des actions de sensibilisation pour promouvoir la cohabitation pacifique entre les communautés Banyali et Nyabusha venues des Rutshuru au nord Kivu afin d'éviter tout conflit identitaire. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Autre actualité à retenir en Ituri, c'est qu'un afflux important de personnes déplacées est observé depuis samedi hier donc dans plusieurs villages du territoire de Mahagi. Ces populations fuient les violences armées signalées depuis le milieu de la semaine à Boulé, dans les territoires voisins de Djougou. Des affrontements y opposent en effet les FRDC à la rébellion de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Nous faisons le point de la situation avec Jean-Claude Lokidile.
Il est environ 16h30, heure locale, lorsque la première vague de plus de 500 personnes atteint les villages du groupement d'Amepamitou après près de 3 jours de marche. Selon une source policière, les déplacés arrivent épuisés, certains transportant à la hâte quelques effets personnels, d'autres accompagnés de leur bétail. Parmi eux, des femmes enceintes, des personnes âgées et de nombreux enfants affamés et affaiblis. Ces familles sont pour l'instant accueillies dans des ménages déjà vulnérables ou dans des églises, notamment à Djupakbeche, Djupusiga, Pakenge Pena, Djupalok, ainsi qu'à Pamitu Paliesh et Siza Nyamukawa. D'autres vagues sont attendues selon des rescapés. Pour rappel, les militaires des FARDC ont lancé depuis quelques jours des opérations militaires dans la zone de Fataki et Loda en territoire de Djougou en vue d'éloigner la présence des combattants de la CRP qui déstabilise cette région selon les autorités militaires. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Okapi.
Vous ne le saviez peut-être pas, le 12 avril, c'est aussi la journée internationale des enfants de la rue. Elle a été instituée en 2011 par le Consortium pour les enfants des rues, un réseau international d'organisations de défense des droits des enfants. Cette journée est dédiée à la sensibilisation aux conditions de vie précaires de ces enfants et à la nécessité d'actions concrètes pour leur protection. Dans la région de Beni-Boutembo, Nord Kivu, le phénomène connaît une nette aggravation depuis plus d'une année. Martial Papimukiba nous explique ce qu'il en est.
Des enfants visibles à plusieurs coins des rues, circulant dans les marchés, devant les banques et les supermarchés, des jours comme des nuits, dont certains réduits à la mendicité. C'est le constat préoccupant à Beni et Boutembo. Pour Joël Kavuya, encadreur principal du Parlement d'enfants dans la région, cette situation est en grande partie liée à l'arrivée massive d'enfants déplacés ayant fui les conflits dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Il appelle à une prise en charge urgente par les autorités.
Depuis l'occupation de plusieurs zones par la FCM-23, de nombreux enfants déjà vulnérables ayant fui de Goma, Rutshuru, Kiwanja et Bukavu, parfois sans leur famille, et d'autres avec leur famille sans moyens, se retrouvent livrés à eux-mêmes en passant jour et nuit dans les rues de Beni et Boutembo à mendier. Nous appelons ainsi donc aux autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour leur protection et leur prise en charge.
Malgré nos tentatives, aucune réaction n'a été obtenue du côté des autorités en charge des affaires sociales à Beni et Boutembo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
À propos de jeunes, sachez que surdité précoce, maux de tête, voire perforation des tympans, le port régulier des écouteurs devient un risque de plus en plus préoccupant chez les jeunes quinois, que ce soit pour écouter de la musique, suivre des films ou passer de longues heures sur leur téléphone. De nombreux jeunes de la capitale portent des écouteurs durant de longues périodes. Une habitude qui, selon certains spécialistes de la santé, peut avoir des graves conséquences sur l'audition et le bien-être des jeunes lorsqu'elle n'est pas utilisée avec modération. Suivez ce reportage signé Esther Mambo Temputu.
Dans les rues animées de Kinshasa, les écouteurs ne sont plus un simple accessoire. Chez de nombreux jeunes, leur port est devenu une habitude quotidienne, voire incontournable. Rencontré en pleine rue de la capitale, un jeune explique qu'il utilise les écouteurs principalement pour suivre les journaux parlés et écouter de la musique.
Déjà à 6h, s'il faut suivre les journaux, c'est en ces moments-là que je mets mes écouteurs. Voilà, lorsque je suis seul, je mets mes écouteurs pour écouter de la musique.
Pour un autre jeune, le port constant des écouteurs est avant tout un moyen de s'isoler du monde extérieur, une pratique qui, selon lui, empêche parfois d'être réellement connecté à son environnement immédiat.
Quand on passe son temps avec les écouteurs, c'est comme si on n'est plus connecté dans tout ce qui est naturel et tout ce qui est vrai.
Par ailleurs, des spécialistes de la santé lancent l'alerte. Le docteur Fidel Angongola, oreilliste, met en garde contre les risques liés à l'utilisation prolongée et excessive des écouteurs.
Les principaux risques, il y a des otalgies, des douleurs au niveau des oreilles, des vertiges, des perforations tympaniques. Le malade peut devenir un malentendant.
Malgré ces mises en garde, le port des écouteurs continue de séduire la jeunesse quinoise, portée par leur accessibilité et l'omniprésence des smartphones dans le quotidien.
Restons à Kinshasa pour parler de ce phénomène de plus en plus courant. Certains ravins sont envahis par des ordures de tout genre. C'est le cas au quartier Kingu et Djilobinza, situés respectivement dans les communes de Selimbao et d'Ngalima. Résultat, un environnement irrespirable, une prolifération de moustiques et des habitants exposés à de nombreuses maladies. Un membre du personnel soignant alerte sur les conséquences sanitaires, notamment la fièvre typhoïde et l'asthme auxquels des riverains et aussi des passants sont exposés. Christian Makasinga s'y est penché.
À l'approche des ravins situés aussi bien dans les quartiers Kingu et Djilobinza, la plupart de ceux qui y passent ont des mouchoirs au nez pour éviter d'inhaler les odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Déchets plastiques, odeurs piquantes et des champs de décomposition s'y accumulent, affectant directement les quotidiens des habitants.
Ce qui nous préoccupe dans ces quartiers, c'est les érosions. Nous en avons plusieurs ici. Donc, parlons des déchets. Lorsque André Kibout a été le gouverneur, les voitures venaient d'ajouter des immondices. Et ces déchets-là constituent maintenant un problème pour nous parce que ça nous donne des maladies.
À en croire, Dr Clarisse Kapinga n'est pas sans conséquence sur la santé.
L'insalubrité de l'environnement peut entraîner de nombreuses maladies. Plusieurs problèmes de santé tels que les maladies respiratoires, citer quelques maladies telles que l'asthme, la bronchite chronique et tout, les maladies parasitaires telles que par exemple le paludisme, on est à
Oïd. Joël Baoko, l'expert en environnement, plaide pour une approche structurée des gestions des déchets.
La meilleure solution qu'il faut mettre l'accent, c'est la création de centres de transit de contrôle ou de centres de transit contrôlés. Parce que dans ces centres-là, vous allez faire le tri, ça pourra nous permettre d'avoir une bonne solution. En triant déjà les déchets, parce que sans ces sites de traitement, il n'y aura pas une solution durable dans l'assainissement de la ville de Kinshasa.
Entre manque de dépotoirs et gestion inefficace des déchets, ces ravins deviennent des véritables bombes sanitaires. Les habitants du quartier Kingu et Djilobinza lancent un appel urgent aux autorités pour l'assainissement et traitement de ces ravins.
Penchons-nous à présent sur le quotidien de ces agents de certaines entreprises publiques qui perçoivent difficilement leur salaire. C'est le cas d'Abraham Kachala. Il travaille au polygone minier comme électricien au service de maintenance de la société minière de Bakwanga. Sa vie s'est beaucoup détériorée à la suite du ralentissement des activités de la MIBA. Nouer les deux bouts du mois avec son salaire devient une épreuve car impayé depuis plusieurs mois. Et Sandalafina est allé à sa rencontre. Son reportage.
Père de 8 enfants, Abraham Kachala rejoint chaque matin son poste de travail au polygone minier malgré les intempéries.
D'habitude, nous nous réveillons à 4h du matin pour aller au service à 6h. Quand il y a un travail à faire, il y a nos chefs qui viennent nous donner à faire.
Au service de maintenance, ils sont que deux agents à couvrir les tâches jadis assurées par une dizaine de collègues. Malgré le dévouement, la récompense n'est pas dans l'assiette, affirme sa chère épouse. Elle s'efforce de nourrir la famille en improvisant chaque fois la vente des fruits cueillis des arbres pour que les enfants trouvent leur part.
Il sort sans rien laisser. Pour contourner cette difficulté, nous vendons les fruits cueillis ici dans la parcelle. Mais il y a des personnes où nous passons 3 jours sans manger.
3 mois d'arriérés de salaire ont été payés la semaine dernière, mais ces moyens restent insuffisants face aux besoins, affirme Abraham Kachala.
On s'est déjà endetté.
Abraham Kachala incarne cette génération de travailleurs qui refusent d'abandonner malgré l'incertitude dans un environnement où les machines se taisent, les outils de production manquent. Son souhait reste clair, voir la MIBA renaître un jour. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Bénin élit son nouveau président aujourd'hui, d'après africanews.fr. Il s'agit du ministre des Finances, Romualdo Ouadani. Il semble avoir la victoire assurée après avoir orchestré une décennie de croissance économique dans ce pays, malgré les attaques djihadistes dans le Nord. Près de 8 millions d'électeurs sont ainsi appelés aux urnes pour élire le successeur de Patrice Talon, qui quitte ses fonctions après 2 mandats de 5 ans et qui a apporté son soutien à Ouadani pour lui succéder.
L'invité.
Il s'agit aujourd'hui de Dr Vincent Melangana, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Macky Sall à Kisangani. Il nous parle de la réhabilitation de la morgue de cet établissement médical 2 ans après sa fermeture. Il répond ici aux questions de Jacques Mokonkole.
Monsieur le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kisangani Makiso, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Docteur, depuis environ 2 ans, la morgue est restée inopérationnelle. Quelle en était la cause?
Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous allez comprendre que cette morgue, c'est l'unique morgue de l'État congolais au niveau de la province orientale. Cette morgue-là est en train de desservir la population boyomaise et de ses environs depuis plusieurs années. Mais on n'était pas appuyé. Vous allez comprendre que c'est la morgue qui prend en charge le corps des indigents, le corps des ramassés, le corps des militaires, le corps des policiers, toutes ces catégories-là. En tout cas, on ne donne presque rien. Vous allez comprendre que nous avons du mal à fonctionner, soit à épargner un petit rien pour que le jour où la morgue sera en panne et que ça pourra nous aider. C'est ainsi que vous avez constaté que la morgue était tombée en panne et qu'on avait du mal à réparer cette machine.
Quel a été le déclic ou le processus pour rendre la morgue à nouveau opérationnelle?
Comprenez que l'hôpital général, depuis un certain temps, nous faisons face à plusieurs défis. On n'avait presque rien. Nous avons tendu la main au président de l'Assemblée provinciale, l'honorable docteur Mateus Kanga, qui a mis à notre disposition une enveloppe colossale qui a pu décanter la situation de la morgue.
Quels sont les travaux qui ont été réalisés pour permettre cette réouverture?
On a touché l'aspect des machines. Toutes les machines ont été remplacées et on a acheté des machines nouvelles.
Quelle est la capacité d'accueil actuelle de cette infrastructure?
La morgue de l'hôpital général de référence Makiso a une capacité de 28 corps.
Mais avec une vingtaine de places pour une ville aussi vaste, cette capacité n'est-elle pas toujours dépassée par la demande?
Je dirais qu'elle est toujours adaptée et c'est aussi une occasion de continuer toujours à faire un plaidoyer aux autorités politico-administratives de nous soutenir. Vous avez ici dit que, vu la population, la grandeur, tout et tout, la capacité, elle est minime. Oui, mais nous allons faire un plaidoyer auprès des autorités.
Alors, qu'est-ce que la réhabilitation de cette morgue, techniquement, peut changer dans le fonctionnement de l'hôpital général?
Dans le fonctionnement de l'hôpital, c'est une source de production. Ça va nous générer des fonds qui pourra aussi améliorer notre enveloppe. Voilà, nous avons pris des stratégies. Premièrement, nous demanderons aux autorités politico-administratives de la place de nous soutenir.
Quelles dispositions avez-vous prises pour garantir l'entretien et le fonctionnement permanent de ces installations?
Nous, au niveau de l'hôpital, notre comité de gestion, nous avons pris des stratégies. Nous allons commencer sur 100% des recettes de la morgue, nous allons commencer à épargner 40% pour la maintenance de la morgue.
C'est chose qui n'était pas faite auparavant.
Oui.
La morgue coûte un peu cher compte tenu du panier de la ménagère de façon générale dans la ville. Est-ce que les prix chez vous, vous allez vous aligner aussi au niveau des hôpitaux privés?
Par rapport à cette question, c'est une morgue à caractère social. Je ne pense pas si nous serons au-delà de 20 dollars. Donc, nous serons entre 10 et 20 dollars, ce qui pourra vraiment soulager la population de Kisangani.
Quel message avez-vous adressé à la population?
Je demanderai à la population de nous faire confiance. Notre morgue a un caractère social. De nous faire confiance, la morgue a repris. La machine, elle est de bonne qualité qui pourra encore conserver des corps en bon état.
Docteur, merci.
Merci beaucoup.
Docteur Vincent Melangana, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Makiso, Kisangani, dans la province de la Tchopo. Voilà qui met fin à ce journal. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté avec Jean-Claude Siala à la technique et Jean Gandou à la supervision. À vous qui nous avez suivis, merci et excellent après-midi.